page du cours du Père Philippe sur la métaphysique d'Aristote, cours donné en l'année 70-71.
Alors je vous donne des détails sur le matériel que vous pouvez trouver du reste dans n'importe quel livre sur Aristote, mais c'est quand même important de le rappeler, de voir qu'Aristote a été disciple de Platon pendant 20 ans. Je crois que c'est capital dans la vie d'un philosophe de comprendre cela. Quand il arrive à Athènes, étant donné qu'il est né à Stagie, quand il arrive à Athènes, il a 18 ans, 367. Et il reste à l'Académie jusqu'à la mort de Platon, 348. Il faut avoir quelques dates, il n'y a pas tellement de temps à retenir, mais la mort de Socrate, il faut la savoir. À peu près la mort de Platon également, l'arrivée d'Aristote à Athènes et la mort d'Aristote, donc quelques grandes dates. Donc à 18 ans, Aristote arrive à Athènes au moment où Platon est dans son acmé. Je crois que ça correspond à peu près au moment du dialogue du Parménide. Il reste dans Parménide, il y a le jeune Aristote qui pose des problèmes, mais au fond, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Alors que si le Parménide soit un tout petit peu après, ça ne m'étonnerait pas, c'est difficile à placer. Le Parménide, vous savez, représente dans la pensée de Platon un moment extrêmement important, c'est un moment de réflexion critique. C'est un moment où Platon n'a plus la même perspective que dans la République, où il y a quand même certains soucis critiques. Et c'est peut-être la présence d'Aristote, peut-être. Un étudiant intelligent a beaucoup d'influence sur son maître. Plus que le maître que son étudiant, vous voyez bien, surtout pour les Grecs. Et alors, il y a sûrement une très grosse influence d'Aristote sur Platon. Ça, je crois. Étant donné le caractère de Platon. Platon est avant, c'est un philosophe chercheur, poète, un homme extraordinairement sensible, autant qu'on peut le savoir, bien que de fait, il n'aime pas beaucoup son corps, mais c'est peut-être justement par réaction, parce qu'il est tellement sensible. Alors il réagit via la rencontre, il considère que le corps est comme le tombeau de l'âme, mais il y a sûrement chez Platon une très grande sensibilité. Et l'arrivée d'Aristote, l'arrivée de quelqu'un qui a un désir très net de connaître, joue sûrement un certain rôle sur Platon. Ce qui est sûr, c'est que Platon a joué un rôle très important sur la philosophie d'Aristote, rôle très difficile à préciser, et je crois qu'on ne pourra jamais le préciser du patron absolu, parce que c'est une affaire influente. Et donc, on reçoit quelqu'un quand on vit, au bout d'un certain temps, devient sa propre vie. On se l'assimile, c'est le phénomène du vivant. Et plus on est vivant du côté de l'intelligence, plus on a une capacité d'assimiler. Alors on l'assimile selon sa propre manière. Ce sont des éléments évidemment qu'on n'aurait pas autrement. Si Platon n'avait pas existé, Aristote ne serait pas ce qu'il a été. Sans question. Mais quelle est l'influence de Platon sur Aristote, c'est toujours extrêmement difficile de voir. Il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'Aristote n'a jamais accepté les formes d'idéal. Ce qui me semble capital. Parce que si, de fait, Aristote n'a jamais accepté les formes idées, ça prouve que profondément, Aristote n'était pas d'accord avec la grande intuition de Platon. Vous savez que le problème se pose, dans quelle mesure Platon, à la fin de sa vie, il croyait encore aux formes d'idées. On ne peut pas savoir. Au fond, les derniers dialogues insistent beaucoup moins sur les formes d'idées. De sorte là, est-ce que c'est l'influence d'Aristote? Mais ce qui est sûr, alors ça me semble extrêmement important, parce que ça montre que, dès le point de départ, il y a une attitude extrêmement critique à l'égard de Platon. Mais en reparmi, vous savez bien, c'est le livre où Platon commence à se demander si les formes d'idées existent. Est-ce que ce n'est pas contradictoire d'accepter les formes d'idées? Pour Aristote, c'est contradictoire. C'est très net, c'est pour ça qu'il ne les accepte pas. Il considère que les formes d'idées qui devraient jouer dans Platon un rôle capital, de fait, ne peuvent pas jouer ce rôle. Donc, nous voyons que ce disciple, arrivant à l'Académie, la liberté des Grecs, il est à l'Académie, mais il n'est pas d'accord sur la chose fondamentale de son maître. L'a-t-il dit? Au début, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que de fait, on n'a aucun témoignage par lequel Aristote aurait pu être d'accord sur les formes d'idées. Donc Aristote reste à l'Académie jusque 348, la mort de Platon. Nous ne savons presque rien sur cette période-là. Il n'y a pas d'écrit d'Aristote, je ne crois pas. Il y a peut-être des écrits, oui, des dialogues. C'est très difficile, vous savez ce que dit Cicéron. Cicéron dit qu'Aristote écrivait encore mieux que Platon. Alors, si vous restez Aristote, n'est pas précisément des écrits plus beaux que Platon. Alors, on présume que ce sont des dialogues perdus. Et que Cicéron parle de dialogues perdus d'Aristote. Il y a des dialogues qui sont perdus, les premiers dialogues d'Aristote, qui sont sans doute de cette période-là. Et qui sont une méthode de dialogue. Aristote, autrement dit, au point de départ, c'était a écrit des dialogues comme Platon. Ce n'est qu'ensuite qu'Aristote a quitté la méthode des dialogues et s'est mis à faire des traités. Et là, il y a quelque chose aussi très intéressant. C'est toujours intéressant de voir la manière dont on veut transmettre son message philosophique. De fait, Platon a pris cette forme des dialogues, pas philosophique. Et c'est évidemment pas philosophique que Platon a pris cette méthode de dialogue. Il a pris la méthode de dialogue parce que les sophistes étaient des maîtres qui ne dialoguaient pas. Platon a dialogué. Il voulait dialoguer. Alors, les dialogues de Platon, nous savons très bien qu'il y a toute une part artificielle. Aristote, au point de départ, s'est mis à prendre cette forme du dialogue. Mais nous n'avons aucun dialogue d'Aristote qui demeure. On peut retrouver, d'une certaine manière, des parties citées par Cicéron, surtout, des dialogues d'Aristote, mais en fait, on n'a rien du tout. On nous reste quelque chose de presque. Aucun dialogue ne reste entier. Ce qui est sûr, c'est qu'après la mort de Platon, ce n'est pas Aristote qui succède à Platon. C'est ce petit, quelqu'un de beaucoup plus humble, au plan philosophique, qui a laissé beaucoup moins de traces et d'œuvres, c'est lui qui succède. C'est lui qui va prendre la succession de l'Académie. De sorte qu'Aristote n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de partir. Il supportait Platon parce que c'était Platon. Mais supporter tout aussi, ça va. C'est on voit c'est très humain, c'est très normal. Et puis, on ne peut rien faire. Platon disparaît, il ne va pas se mettre à l'école de politique, ça ne va pas. Donc il s'en va. Il s'en va à Athos, en Croate, parce qu'il avait connu Hermias. Hermias, qui est un ancien esclave devenu tyran. Tyran, c'est-à-dire roi, Babylone, c'est ça. Et donc, il est reçu là, en amitié, et c'est il faut sa première école. La première école d'Aristote est à Athos, elle n'est pas à Athènes. Pas l'oublier. C'est sans doute à ce moment-là qu'Aristote rédige de ce que nous reste certains passages des métaphysiques, de la philosophie première. Et puis un prophétique qui est disparu, dont on a encore des passages dans Cicéron. Donc il y a là un premier moment de l'enseignement d'Aristote plus libre. La période d'Aristote est très importante, je crois, pour comprendre un peu la pensée d'Aristote. Parce que la période d'Athos est la période de libération. Vous voyez ce que je veux dire? Après avoir été 20 ans en dépendance de Platon, Aristote doit là commencer à fonder une école et être lui-même. Il a à peu près 40 ans. De fait, 345, destruction d'Athos par les Perses, il s'en va à Mycilène. Dans l'île de Lesbos, donc il se rapproche, si vous voulez, pas de l'Asie mineure, il vient de l'île de Lesbos, mais il n'est pas encore à Athènes. Et de fait, il continue de faire. En 343, il est appelé par Philippe III de Macédoine pour l'éducation d'Alexandre. Il ne faut pas oublier cette période dans la vie d'Aristote où il a été l'éducateur du futur Alexandre. Mort de Philippe en 335, et c'est à ce moment-là où Aristote revient à Athènes. Donc 335. Vous voyez, ça fait à peu près la mort de Platon, 348, 335. Il était 13 ans d'absence d'Athènes. Et c'est à ce moment-là où ils font le lycée. Le lycée, donc, sera l'école d'Aristote face à l'Académie. C'est aussi très significatif. Aristote ne retourne pas à l'Académie. Il ne demande pas à l'Académie s'il y a une place pour lui. Non, il a gardé son indépendance. C'est au fond très significatif. Vous voyez, si Aristote était très très attaché aux idées de Platon, il serait peut-être parti pour des raisons personnelles à cause que la succession n'était pas tout à fait conforme à ce qu'il voulait, mais revenant à Athènes, il serait revenu à l'Académie. Or, de fait, il ne va pas à l'Académie. Ceci montre bien que la pensée d'Aristote veut garder une indépendance complète à l'égard de la pensée de Platon. Moi, ce sont des faits qui sont très significatifs, pour comprendre ce que peut représenter pour un philosophe fonder une école face à une autre école. Donc ils font de lutter face au fait à l'Académie. Et c'est là où il y a la grande activité intellectuelle d'Aristote, toute l'activité intellectuelle extraordinaire. Nous essayons de la voir, de voir au moins en gros ce que ça représente. De fait, 323 morts d'Alexandre. N'oublions pas qu'Athènes était sous la coupe de la Macédoine, et donc comme Alexandre est protégé à Aristote, Aristote était entré à Athènes sans qu'Alexandre vivait. Alors ça pose aussi problème politique, vous voyez, par rapport à la position politique d'Aristote. Qu'est-ce que la position politique d'Aristote? C'est bien difficile à la comprendre, parce que c'est très difficile de comprendre les positions politiques anciennes. C'est déjà pas capable de comprendre les positions politiques d'un pays qui n'est pas une autre. C'est pas l'idée d'être dans un pays étranger pour s'apercevoir que la politique d'un pays étranger est toujours un peu étrangère. On ne la connaît jamais, c'est pas parce que la politique parlait toujours de choses qui sont des choses de la sensibilité, donc on ressent dans un pays dès qu'on est en dehors, c'est très très difficile. C'est difficile pour nous comprendre un peu ce point de vue-là. Est-ce qu'au fond Aristote, lié à Alexandre, lié à la Macédoine, pour pas oublier, Aristote n'est pas né à Athènes. C'est pas le philosophe d'Athènes, Aristote. Il a fondé le lycée Athènes, parce que c'était Athènes où il y avait de fait la culture la plus grande. Mais Aristote n'est pas né à Athènes. Donc, il a toujours été lié à la Macédoine. Toujours été lié donc, à quelque chose qui était rival d'Athènes. Et quand il est revenu à Athènes pour fonder le lycée, il y avait la protection d'Alexandre. Tant qu'Alexandre vit, Aristote demeure. Le jour où Alexandre meurt, 323, on considère qu'Aristote est un homme dangereux, parce qu'au fond, il est l'influence du pays dominant. Athènes se libère à la mort d'Alexandre. Et Aristote est obligé de partir, alors avec excellent motif. N'est-ce pas ? Pour dire, pour que Athènes ne soit pas coupable d'un second meurtre, comme il a été coupable de Socrate, Aristote s'en va. Il quitte Athènes, n'est-ce pas ? Et il meurt très peu de temps après, 322. D'un ulcère à l'estomac, c'est la maladie des philosophes, n'est-ce pas? Et donc, on voit bien ce que ça représente comme vie. Il y a très peu d'états. Au fond, on voit quand même quelques aspects qui sont très importants. C'est évident, la chose la plus importante, c'est la formation d'Aristote. Et donc, c'est son premier séjour auprès de Platon. Alors, ce premier séjour auprès de Platon, c'est de voir les œuvres que Platon a écrites au moment où Aristote se formait. C'est ça qui est important. Et donc, c'est à partir du Parménide qu'on veut voir. Puis ensuite, voir la libération de la pensée d'Aristote relativement à la pensée de Platon. Quand on a subi une grosse influence, quand on a été sûrement en admiration vis-à-vis de quelqu'un dont on n'est pas d'accord profondément, mais dont il y a une amitié. Une amitié, c'est bien la fameuse parole qu'Aristote dit dans le début. Je ne crois pas du tout que c'est dit comme une parole rhétorique. C'est dit comme une parole très, très vécue, fondamentalement vécue. Et Aristote dit ça dans l'éthique. Aristote n'est pas ça dans la métaphysique. Dans la métaphysique, il est très libre. Parce que c'est la métaphysique. Dans l'éthique, elle est ordonnée à l'amitié. Alors on est moins libre. Quand on est un ami, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Alors Aristote dit dans l'éthique, au début de l'éthique, c'est pas, il dit qu'il aime la vérité et Platon. Il les aime tous les deux, mais il aime la vérité plus que Platon. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à critiquer Platon. Dans l'éthique, à propos du bien. Une grande critique qui se fait sur Platon à propos du bien, qui est très important et qui est très intéressant parce que ça montre bien la position d'Aristote, même au niveau éthique. Il se posait le problème, c'est un problème de conscience. Vous voyez, au point de vue profond, on comprend très bien, surtout la mémoire de quelqu'un comme Platon. Alors, est-ce qu'il faut le critiquer quand on écrit un livre sur l'amitié? Et quand on montre ce que c'est de l'amitié, et quand on sait très bien tout ce qu'on a reçu de celui qui a été pour, vraiment pour Aristote, un maître, sûrement vénéré, il a aimé. Cependant, Aristote a opté plus profondément pour une recherche de vérité, même au plan de l'éthique. Donc voyez quelques détails qu'il faut connaître. Alors connaissez au moins l'état de la descente d'Aristote, 384, à peu près, mais à Stagie, il faut savoir le lieu, parce que quand on parle du Stagie, il faut savoir qui est Aristote, c'est pas que ça fait partout. Vous savez, on doit savoir. Et il faut savoir que le fait qu'il est arrivé à quelques détails. Ensuite, je vous donne quelques détails sur les œuvres d'Aristote. Alors, très grosso modo, rapidement, pour que vous voyez bien ce que nous essayons de faire ensuite. Il faut au moins avoir regardé une fois dans sa vie, si on est philosophe, quand même les œuvres, les éditions Pecker qui nous montrent toutes les œuvres d'Aristote, et puis l'ensemble, et puis après essayer de les regarder dans le détail. Il faut comprendre que, de fait, à la très grande différence de Platon, c'est qu'Aristote communique une connaissance en dehors des dialogues. C'est-à-dire qu'Aristote a un souci beaucoup plus profond que Platon. Je ne dis pas systématique, parce que je ne crois pas que c'est systématique. Vous voyez, au sens où on dit systématique après, ça c'est ça des après. Mais un souci organique. Aristote est quand même le premier philosophe de l'Éthique. Ça c'est quand même très important à faire. Alors on peut dire que c'est parce qu'il avait comme père un père qui était médecin. C'est possible, c'est possible. Les médecins ont le souci de l'Éthique. C'est le propre du médecin, c'est d'être le gardien de l'Éthique. Et d'essayer de comprendre ce que c'est la vie et de sauver la vie. Alors c'est très possible, c'est bien ça. Il y a avant Aristote déjà des perspectives qui sont très proches de la vie. L'Aristote est quand même le premier qui essaie de regarder la vie, c'est-à-dire les vivants, pour essayer de comprendre ce que c'est. Je crois que c'est le premier qui a fait une recherche très d'analyse auprès de ce que représentaient les vivants, les recueils à propos des livres des animaux, des parties des animaux. C'est quand même quelque chose de très extraordinaire. Quand vous avez envie de vous amuser en lisant Aristote, vous lisez les parties des animaux. C'est très curieux, c'est très intéressant de voir la manière dont Aristote regarde les parties des animaux. Évidemment, tout ça est périmé, c'est évident. Mais quand on regarde le moment où Aristote fait ça, c'est peut-être là où c'est dit le mieux la curiosité d'Aristote. La curiosité de cet esprit. Vous voyez la très grande différence de Platon. Du reste, ce que toujours on a présenté, on dit Platon regarde le ciel, Aristote regarde la terre. C'est vrai, en un sens où Aristote sait que la première chose que nous devons regarder, c'est la terre. Ça c'est vrai, Aristote le dit. Et c'est la première chose que nous devons regarder. Nous ne pouvons connaître ce qui nous dépasse que en regardant d'abord le point de vue de la terre. Alors que Platon, lui, va regarder tout de suite ce que représentent les formes idéales, un regard beaucoup plus intérieur, si vous voulez, de ce que représente le divin. Alors qu'Aristote a un souci d'un très grand réalisme. Et je crois que c'est ça qui nous fait comprendre aussi la très grande différence de perspective. Regardez, pour mieux comprendre la différence de perspective de la philosophie d'Aristote et celle de Platon, c'est que pour Platon, la réminiscence est source de philosophie, alors que pour Aristote, la source de la philosophie, c'est l'extérieur. Nous avons l'occasion d'y revenir, mais je crois que c'est aussi très important de regarder ça. C'est le problème de la réminiscence qui est très nettement le point de départ de la philosophie platonicienne. Et avec la réminiscence, c'est le problème de l'immortalité de l'âme. Donc, le problème de l'immortalité de l'âme est donné comme une hypothèse qu'on n'est pas dans nous. Il n'y aurait pas de philosophie s'il n'y avait pas l'immortalité de l'âme. Pour Platon, c'est très net. Alors, Aristote essaie progressivement de regarder ce que peut être le problème de l'immortalité de l'âme. Et même au fond, il n'a jamais posé de façon explicite. Vous voyez, je dis dans le livre, on sent qu'il y a ce problème qui est sous-jacent, mais qui n'est pas posé de manière explicite. Parce que Aristote parle de l'expérience. Si nous regardons les catalogues des œuvres d'Aristote, nous voyons que ces catalogues nous donnent des quantités d'œuvres qui sont détraitées. Ils sont détraitées. Aristote n'a pas donné de son vivant, si vous voulez, une synthèse. On l'a découvert ensuite, on a essayé ensuite de former des différents livres. Mais ce qui semble assez net, c'est que chez Aristote, il y a des blocs, et je crois que ça on peut le dire, même avec toutes les interprétations qu'on peut donner, que je vous dirai un mot ensuite. Il y a des blocs très profonds de recherche. Il y aura d'abord, si vous voulez, on donnera d'une façon habituelle, les recherches d'ordre de Danone, c'est-à-dire ce qu'on appelait ensuite la logique. Les livres, si vous voulez, sont les livres des instruments de pensée. C'est les instruments de pensée pour Aristote. C'est l'organone. Le mot organone montre bien justement que c'est instrument de pensée. Ces instruments de pensée sont multiples. Il y a d'abord le point de vue des topiques et des réputations topiques. Donc les topiques sont sans doute les premières réflexions d'Aristote sur justement l'instrument de pensée. Les topiques, c'est très difficile, il va cesser de livrer l'or, il faut les lire de temps en temps. C'est pas des livres très drôles, c'est des livres intéressants, parce que ça nous montre comment Aristote pense et comment il a un souci d'analyser. Les topiques se composent de 8 livres. Il y a un trait de l'organisation cohérente du programme. L'opinion. Ce sont les topiques. L'opinion des femmes, l'opinion de la plupart des hommes, et des diverses opinions. Donc on regarde ce que c'est que les opinions. Et comment utiliser les opinions. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et de nouveau. De nouveau, d'une certaine manière. Vous ne voyez pas ça du tout chez Platon. Aucun souci. Évidemment, les sophistes, on voit très bien la perspective des sophistes qui est là derrière, puisque les sophistes usent des opinions des autres. Mais Aristote, justement, veut montrer que les sophistes ne sont pas la philosophie. Donc c'est peut-être la position la plus violente contre les sophistes. De faire que les sophistes fassent partie uniquement d'un instrument de pensée, mais ce n'est pas la philosophie. À côté des sophistes, il y a la situation sophistique, qui est aussi très importante. Ensuite, Aristote écrira progressivement, ça c'est tous les problèmes de savoir comment Aristote a produit ces choses successivement, les premiers, les planètes analytiques et le livre de l'interprétation. Donc il y a un bloc, l'organon, les livres de logique. C'est des livres extrêmement importants. Aristote est le père de la logique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne s'oppose là-dessus. Là-dessus, on peut dire qu'Aristote est vraiment le premier qui a eu le souci de réfléchir sur l'instrument de la pensée. C'est quand même une réflexion très étonnante. Hein. On ne voit pas ça du tout dans la position de Platon. D'essayer de distinguer la pensée et l'instrument de la pensée. Ça n'a l'air de rien pour nous, parce que nous sommes habitués à cette distinction. Quoique, je ne sais pas si ça va être ça, c'est la distinction entre les deux. N'est-ce pas? Mais essayer une distinction qui, la première fois qu'elle est faite, est quand même une distinction très extraordinaire. D'essayer de réfléchir sur ce que représente l'instrument de la pensée, c'est-à-dire la manière dont la pensée peut regarder les choses, organiser les choses, et la pensée elle-même. Nous avons ensuite un autre grand bloc de livres, de traités, qui sont les traités de philosophie de la nature. Alors, voyez la différence, c'est que l'organon, ce sont des livres logiques qui sont l'instrument de pensée. Ça ne fait pas partie de cette philosophie. Je ne crois pas pour Aristote que l'organon fait partie de cette philosophie. Au sens fort, l'organon est un livre, c'est un instrument. Un instrument de pensée. En faisant la logique, on fait de la logique, on essaie d'assouplir son esprit, mais c'est en vue ensuite de faire de la philosophie. Ou on fait de la logique à l'intérieur même de la philosophie. La philosophie pour Aristote commence avec la philosophie de la logique. Il le dit plusieurs fois. Je dis bien comment, parce que la philosophie de la nature pour lui, c'est ce que nous connaissons en premier lieu. Parce que c'est la connaissance de l'être qui est nu. Et donc c'est la partie de la philosophie qui est la plus proche de l'expérience. De l'expérience que nous avons du monde physique. Aristote ici reprend toute la tradition ionienne. Cette tradition ionienne devant laquelle Socrate s'était opposé, Socrate avait été au début, Socrate avait fait des recherches de la nature, dans une perspective sophiste, Socrate de fait avait rompu avec cette tradition. Platon, à la fin de sa vie, la reprend dans le film. Peut-être une influence d'Aristote. Ce qui est sûr, c'est qu'Aristote n'a jamais perdu la tradition de la philosophie de la nature. Et que les premiers livres, sans doute, des physiques, il y a dans la physique, il y a des livres qui semblent tout à fait primitifs de la pensée d'Aristote. Donc, une pensée tout à fait du début. Donc, il y a les livres sur la philosophie de la nature. Ces livres sur la philosophie de la nature, c'est la physique, c'est le Decello. Il faut bien voir la différence. Dans le livre sur la physique, c'est un livre tout à fait général sur la nature, les principes essentiels sur ce que représente la nature. La nature, c'est le principe de l'être qui est nu. La nature, c'est le principe du mouvement, la physique. C'est le principe du mouvement. Et immédiatement après le livre de la physique, qui est tout à fait général, Aristote étudie les premiers êtres sensibles. Les êtres sensibles, qui dans sa perspective sont divins, ça, c'est toute une tradition grecque qu'Aristote garde, c'est le livre du Decello. Les astres, le soleil, la lune, toutes les étoiles fixes, sont toutes vêtues de ce que représente le ciel. Et le ciel, pour les Grecs, pour les premiers Grecs, représente le divin. Donc nous sommes en présence d'un sensible divin. C'est-à-dire d'un sensible qui est à la fois nu, mais d'un mouvement circulaire. Et parce que c'est un mouvement circulaire, mais peut-être pas. L'Aristote dans le Decello nous montre comment nous sommes en présence des sensibles qui ne sont plus correctibles parce qu'ils sont de fait parfaits. Et c'est dans la lumière du Decello qu'on regarde alors ce qui est sublunaire, ce qui est sublunaire, c'est la terre. N'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est en dessous de la lune. Et alors là, nous sommes en face des êtres corruptibles. Les êtres corruptibles, c'est nous. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous touchons directement. Là, vous voyez, il ne faut pas oublier cette perspective que nous ne pouvons plus évidemment garder, mais qui est très important pour comprendre certains aspects d'Aristote. C'est très important de voir qu'Aristote, de fait, là, se situe dans une tradition d'un corps dont la partie principale, ce sont les astres et le ciel des étoiles fixes, c'est quelque chose de parfait. Ensuite, le second livre, le troisième livre de la philosophie de la nature, c'est le livre sur la génération et la corruption. On comprend très bien qu'après avoir regardé le ciel et montré que la Terre est le point central de cet univers, mais que la Terre, c'est justement le lieu de la corruption, on va étudier ce que c'est que la corruption et ce que c'est que la génération. Je vous fais grâce des autres livres, mais je situe tout de suite à l'intérieur même du livre de la grande étude de la philosophie de la nature, les livres sur les vivants. Alors ça, il faut au moins savoir situer exactement les livres sur les vivants. Le premier livre qui semble être l'étude des vivants, c'est les parties des animaux. Et le second, c'est le traité de l'âme. On peut discuter, savoir si le traité de l'âme est avant ou après. Il semble que le traité des parties des animaux soit d'avant. Et que le traité de l'âme vient après. Ce qui est sûr, c'est que pour Aristote, l'étude des vivants se fait à l'intérieur même de l'étude de la philosophie de la nature. Autrement dit, l'étude du vivant se présente comme un être qui possède une qualité particulière à l'intérieur de son mouvement. C'est toujours l'être mu. C'est l'être mu qui se meut. Il est à la fois mu et il se meut. Et c'est pour cela que l'étude du vivant se situe à l'intérieur même de l'étude de la philosophie de la nature. Il ne faut pas faire sortir trop vite le Félix Suquet, c'est-à-dire le traité sur l'âme, du traité sur la nature. Il faut comprendre que pour Aristote, au contraire, le traité sur l'âme se situe à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que le traité sur les parties des animaux, c'est-à-dire le corps, soit resté avant l'âme. Le corps, c'est ce qui est. Alors on note la continuité par là avec sur la philosophie de la nature. La philosophie de la nature étudie ce qui est mieux. Et l'âme étudie un principe immanent qui permet de voir comment le vivant se meut. La fameuse dimension du vivant qui se meut. Le vivant qui se meut, c'est-à-dire celui qui possède à l'intérieur même de lui un principe immanent qui organise son propre mouvement. Le vivant a une autonomie. Alors que celui qui n'est pas vivant n'a aucune autonomie et il est parti dans le tout. Tandis qu'au contraire, le vivant possède lui un principe d'autonomie qu'Aristote appelle l'âme. Comprenons bien le terme âme, psyché chez Aristote, ce n'est pas du tout que nous appelons âme, nous. Nous nous pensons tout de suite à l'âme immortelle, nous sommes très très amitiés, nous sommes très proches d'Aristote. L'âme pour Aristote, c'est ce qui est le principe du vivant. Il y a une âme pour un arbre, il y a un arbre, il y a une âme pour un animal. Donc l'âme, c'est le principe de vie. C'est donc l'âme qui va permettre de faire que le vivant va posséder au-dedans de lui-même une certaine autonomie. Le vivant fait partie d'un tout. Il fait partie de ce tout qui est le cosmos, mais il possède en lui-même une certaine autonomie. Pour répondre de cette autonomie, il faut poser un principe qui est là. Là, on ne le saisit pas directement. C'est un principe que l'on induit. Nous verrons trouver l'induction dans Aristote. Après avoir posé le traité de l'âme, Aristote va nous donner toute une série de traités moins importants, mais très intéressants. Le traité sur le sens et le sens. Le traité sur la mémoire et la réminiscence. Le traité sur le sommeil et le réveil. C'est très important de voir ça. Aristote, quand même, est le premier qui a traité de cette question du sommeil et du réveil. Ça pose un problème. Pas comment se dit que nous dormons. Comment se dit que les vivants ont un rythme. Ils ont un rythme, alors que les non-vivants n'ont pas. Une pierre ne dort pas. Au sens rigoureux, vous voyez, dans le sens où Aristote prend le point de vue du vivant. Tandis qu'au contraire, il y a, dès que la vie apparaît, il y a une autonomie et un rythme. Et ça, c'est propre du vivant. Il y a un rythme vital. Ce que la biologie reconnaîtra aujourd'hui d'une autre manière, mais reconnaîtra que le fait qu'il y a autonomie et rythme vital. Il y a un rythme vital à l'intérieur même du vivant. Aristote Aristote fera un traité particulier, sur les rêves. Alors, comptez le nombre de philosophes qui ont fait des traités sur les rêves. C'est intéressant de voir ça. Parce qu'au fond, on a laissé tomber complètement des traités qui, pour Aristote, ont existé depuis qu'on étudie maintenant. On ne peut pas étudier 10 ans si on n'étudie pas toute une vie, toutes des rêves. Ce qu'on appellerait l'inconscient, si vous voulez, pour Aristote, c'est des rêves. C'est le sommeil et les rêves. Alors, il parle aussi de la divination selon les songes. Il parle aussi du mouvement local des animaux. Parce que ce qui caractérise le vivant, c'est d'être autonome, et l'autonomie du vivant est montrée surtout dans ce mouvement local. Le mouvement, le vivant, dans la mesure où il est un vivant parfait, peut se déplacer. Évidemment, le vivant du végétatif ne se déplace pas. Mais le vivant, justement, sensible se déplace. L'animal se déplace. Et ceci montre bien l'autonomie beaucoup plus grande des vivants. Vous voyez, le souci de montrer que plus le vivant est vivant, plus il a une autonomie différente. Ensuite, Aristote traite de la génération des animaux, de la longueur et de la brièveté de la vie, de la jeunesse et de la vieillesse, de la vie, de la mort et de la respiration. Donc, vous voyez, tout un trait, toute une succession traitée sur le vivant. Vous voyez, de saisir ce que représente le vivant. Alors, retenons, là, il faut au moins comprendre, que dans la perspective sur le vivant, Aristote reprend la perspective pythagoricienne. Mais il la reprend de façon assez différente, elle est déjà présente chez Aristote, chez Platon, mais il la reprend à sa manière, la perspective des 3 degrés de vie. Ceci est très important, il faut le savoir, on ne comprend pas très bien la position même métaphysique d'Aristote, on ne voit pas ça. Les 3 degrés de vie. Les 3 degrés de vie, c'est la vie végétative, la vie animale et la vie, c'est nous, la vie spirituelle, si vous voulez, c'est très difficile. La vie spirituelle pour nous, ça a pris une autre signification. Alors disons, la vie du nous. La vie de l'intelligence, on ne peut pas dire non plus la vie intellectuelle, c'est pas uniquement la vie intellectuelle, c'est la vie du nous, c'est la vie de l'esprit. Donc il y a 3 degrés de vie, vous voyez, les pythagoriciens disaient ça dans une perspective ascétique, Platon l'a repris dans sa perspective à lui, Aristote la reprend aussi dans l'étude du vivant, pour montrer que le vivant comme tel va vivre selon différents aspects. Il y a le premier degré, la vie végétative, c'est prononcé. Premier degré d'autonomie, c'est la vie végétative. Le vivant végétative a une certaine autonomie. Il a son rythme propre. Il y a la respiration et la simulation. Ensuite, la vie sensible, il appelle la vie animale. Parce que c'est l'animal qui possède la sensation. Et donc c'est lui qui nous représente à l'état séparé, qui représente la vie sensible, liée à une vie végétative transformée chez l'animal. Et puis dans l'homme, il y a le troisième degré, et c'est propre de la vie de l'homme, il y a ce troisième degré de vie, c'est la vie intellectuelle, qui est la vie du nous. La vie du nous, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Donc voilà l'ensemble de la philosophie de la vie, qui représente toute une recherche particulière de ce qui est vu ou de ce qui se meut. Ensuite vient, en troisième lieu, si vous voulez, ou en second lieu, une partie de la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie première. Et c'est de fait ce point de vue-là que nous verrons ensemble et que nous continuerons de voir, sauf que je le laisse entre parenthèses. Mais n'oublions pas que pour Aristote, il y a, en plus de la philosophie première, ce qu'il appelle la philosophie humaine. La philosophie humaine ou la philosophie pratique. Et ceci, c'est très important parce que c'est là où Aristote prétend être plus proche de Socrate que Platon est proche de Socrate. C'est quand même très important de bien saisir ce souci d'Aristote de montrer que là, il rejoint l'intuition profonde de Socrate. Et que dans l'ensemble, il s'oppose au sophisme, comme Socrate s'oppose au sophisme. Et c'est dans la perspective de la philosophie humaine que nous voyons le mieux. La philosophie humaine, c'est l'éthique. C'est d'abord l'éthique. Alors, il y a 3 grandes éthiques. L'éthique à Eudène, la grande morale et l'éthique à Nicomaque. Alors, la grande morale est un point d'interrogation. Que on s'interroge pour savoir si c'est d'Aristote ou pas d'Aristote. Les dialectiques à Eudème, qui serait la première éthique d'Aristote, la grande morale, et puis l'éthique à Nicomaque. L'éthique à Nicomaque, c'est celle que nous avons peut-être, que nous avons actuellement, si vous voulez, et qui représente une œuvre très achevée. Deux œuvres très achevées chez Aristote, c'est le De Anima et l'éthique à Nicomaque. Je crois que ce sont les œuvres les plus achevées, comme d'être. Vous voyez, les œuvres les plus. Où l'ordre de la composition est la mieux faite. Nous avons ensuite, toujours dans cette perspective de la philosophie humaine, la politique. Et à côté de ces œuvres proprement éthiques, il y a la poétique d'Aristote, qui est un petit traité sur l'art, sur l'art poétique, l'art d'imitation. À côté de ces grandes œuvres, nous pouvons ajouter la rhétorique. La rhétorique est à la fois proche de l'aspect de la poétique et de l'art, et de la logique. J'ai alors ajouté les recueils d'essais. Tout un tas, une série de recueils qui sont des recueils d'essais. L'histoire des animaux, l'histoire des plantes, et puis les constitutions d'essais. Ce sont des recueils qui sont comme des laboratoires. Des fichiers très bien faits, intelligents, où on a des possibilités de réflexion. Alors c'est très important parce que ça montre que toute la pensée d'Aristote est toujours en très grande dépendance des faits. Une documentation, si vous voulez. Une documentation qui reste toujours ouverte. Alors que les autres parties, il y a un souci dans la pensée d'Aristote d'organiser cela. Si nous essayons de comprendre, parce qu'il s'agit d'entrer maintenant dans la philosophie première, je vais très vite, parce que nous l'avions déjà vu l'année dernière, je m'excuse pour ceux qui sont au début, mais ceux qui sont au début se remettront progressivement au rythme. Si on entre dans la philosophie première d'Aristote, il faut essayer de comprendre le but philosophique d'Aristote, qui est quand même très différent de l'histoire. Alors là, je crois qu'il faut essayer toujours de se reposer la question. On peut interpréter un auteur que dans la mesure où on entre dans son intention. Si on interprète cet auteur avec une autre intention, je crois qu'on ne le respecte pas. Il faut quand même respecter les philosophes qu'on voit pour essayer d'entrer dans leur intention. Alors, quelle est l'intention d'Aristote? Aristote le dit explicitement. Donc il faut quand même essayer de voir. Même si ce fait, on ne voit pas toujours que c'est de cette manière-là qu'il le fait, mais il faut essayer d'entrer dans son intention. On est d'accord ou pas d'accord avec lui, ça c'est autre chose. Mais pas, il faut d'abord essayer d'entrer dans son intention. Quelle est l'intention d'Aristote quand il fait la philosophie? Il dit que le propre du philosophe, c'est la recherche de la vérité. La philosophie, pour lui, représente une connaissance parfaite. Une connaissance scientifique, à la manière dont Aristote appelle cette connaissance scientifique. Ce n'est pas du tout ce que nous appelons connaissance scientifique. Donc il faut faire grande attention à l'équivoque. Parce que la connaissance scientifique à notre époque prend une nuance, une modalité très différente. Je dirais qu'aujourd'hui, le mot scientifique, hein, regardez quand il y a des congrès de savants, les uns disent que la mathématique n'est plus une science, n'est pas, c'est plus une science, ni la physique est une science, donc pas du tout, les seules grandes sciences et la mathématique, alors voyez, on peut discuter là-dessus indéfiniment. Autrement dit, aujourd'hui aussi, on voit que le concept de science prend des modalités extrêmement différentes. Quand vous parlez des sciences humaines aujourd'hui, vous voyez très bien que ce n'est pas du tout la même chose que la physique ou la biologie. Eh bien alors, c'est très important de voir que le concept même de science éclate. Alors, c'est important de voir le concept de science chez Aristote, parce que son intention, c'est de faire une œuvre philosophique qui est scientifique. Tandis que Platon, lui aussi, a le souci de faire une œuvre scientifique. Mais le mot science chez Platon a une autre valeur que chez Aristote. Nous verrons en voyant la réponse. Et ça, c'est très important, parce que je crois, là, nous touchons vraiment l'intention d'Aristote. Aristote veut faire vraiment une œuvre philosophique, c'est-à-dire une œuvre scientifique. Qu'est-ce que c'est pour lui une œuvre scientifique? C'est la recherche des causes. Au fond, c'est ça, la chose qui reste très difficile. C'est la recherche des causes. Il le redit constamment, chaque fois qu'il recommence une œuvre, il ouvre. Et donc, s'il redit chaque fois la chose, c'est qu'il sait très bien que c'est difficile à comprendre, même de son temps, et que c'est encore plus difficile pour nous, n'est-ce pas, de comprendre ce que représente cette recherche des causes. Je crois que si on ne saisit pas cela, on risque de chercher dans Aristote autre chose. On peut très bien découvrir dans Aristote autre chose. Mais on ne se met pas dans la perspective d'Aristote. Alors, je reviendrai sur ce point-là la fois prochaine en vous disant ce que nous avons, en résumant ce que nous avons vu à propos de la philosophie première, et je compte continuer avec vous, puisque vous êtes d'accord, le parallèle de la philosophie première pour essayer d'analyser successivement les différents livres de la philosophie première. Si je ne remonte pas au tablette et que je reste enfermé dans le problème de la tête, je reste enfermé dans le problème de l'immanence. La subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale, c'est le problème ultime de la subjectivité transcendantale. le transcendant, c'est-à-dire l'autre. Parce que quand je dis ceci, c'est la première expérience de l'autre. Et c'est l'autre qui fait comprendre ce que c'est le transcendant. Si jamais moi, je fais comprendre ce que c'est le transcendant. Quand quelqu'un me dit, moi je comprends très bien ce que c'est le transcendant, parce que je me comprends. Là, c'est beau, tu n'as rien compris. Parce que c'est le transcendant. Puisque si vous comprenez, vous comprenez l'immanent. Ça, nous le comprenons toujours. Le transcendant, je comprends de l'autre. Alors la première expérience de l'autre, ce n'est pas l'expérience de l'esprit. La première expérience de l'immanent, c'est l'esprit. Et la suite, toujours le même. Alors, si de fait, mon expérience fondamentale revient toujours à l'esprit. Et que je reste toujours enseigné le même, dans ce point de vue immanent. Nécessairement, je te souviens à l'expression en fait aussi. J'ai crédit, ma vie s'existe. Ma vie, c'est pas ça. Mais je comprends l'existence en fonction de l'esprit. Et comprenant l'existence en fonction de la vie, je dis ma vie, c'est bien de l'esprit. Oui, c'est l'être un petit peu mouvement. Et donc, je ne peux plus distinguer réellement les distinctions métaphysiques. Entre l'être et le livre, je ne distinguerai que verbalement. C'est-à-dire aussi, il y a des vérités qui sont plus êtres et des vérités qui sont plus mouvements. Il y a des moments de la vie qui sont plus statiques et des moments qui sont plus dynamiques. Mais toujours les deux possibles. À partir de distinguer. Oui. Alors c'est pour ça que je crois que tout le croix de la philosophie du réalisme, c'est toujours le primat de la vie. Et alors ce primat de la vie, c'est comprendre comment on ne peut pas arriver à distinguer ce point de vue de la vie. Et qu'on reste dans l'immanent, et restant dans l'immanent, nécessairement, on saisit. Vous voyez, le conditionnement devient premier. C'est en fonction du conditionnement de la vie que je suis là. Parce que nécessairement, dans la réflexion sur ma conscience, le conditionnement est devenu premier. Alors que dans l'expérience,
deuxième cours.
Je vous rappelle aussi, lorsqu'il s'agit de ces écrits et en gros de la métaphysique, spécialement, nous sommes en face d'un problème d'interprétation qui est extrêmement difficile. Et il faut voir au moins les diverses possibilités. Je ne trancherai pas, je viendrai au terme. Je voudrais que vous puissiez vous-même, dans la mesure du possible, dans la mesure où on se plonge un peu dans Aristote, petit à petit, on arrive à pouvoir quand même comprendre un peu de l'intérieur. Parce qu'en définitive, c'est une compréhension de l'intérieur. C'est une compréhension d'Aristote par lui-même qu'il faut donner. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Pas ce que les autres ont dit, c'est un autre problème. On pourrait faire ça, on pourrait faire l'histoire de ce côté-là. Et voir comment l'aristotélisme, au cours des âges, a pris si vous voulez, des orientations très très différentes. Averroès, Avicenne, Thomas d'Aquin, Don Scott, Occam. Vous voyez, uniquement ça. Tous ceux-là sont aristotéliciens. Occam se dit aristotélicien et veut être aristotélicien. Mais les aristotéliciens sont tout à fait différents de Saint Thomas, tout à fait différents de Avicenne, tout à fait différents d'Averroès. Et entre Averroès et Avicenne, il y a quand même quelque chose aussi très différent. Alors vous voyez qu'on voit, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les modernes reprenant Aristote trouvent des interprétations extrêmement différentes. C'est pas étonnant, ça a toujours été comme ça. Parce que de fait, on trouve dans Aristote comme une matière à penser. C'est dur, ça résiste. Alors ça exige constamment de revenir, et puis qu'on trouve, de fait, dans la pensée d'Aristote, des passages qui, à première vue, peuvent sembler contradictoires, tout en même peut-être contradictoires, il s'agit de l'expliquer. Alors, il faut essayer. Je crois que c'est l'effort qu'on doit faire si on veut entrer un peu dans la pensée d'Aristote. C'est d'essayer d'expliquer par lui-même, en entrant dedans, qu'on entre par la force de la philosophie de nature, qu'on entre par l'éthique, qu'on entre par la politique, qu'on entre par la politique, peu importe, le tout c'est d'entrer dedans. Et une fois qu'on est entré dedans, d'essayer de comprendre qu'on a affaire à quelqu'un qui, normalement, a un certain cheminement. Il y a un certain cheminement dans la pensée d'Aristote. Je crois qu'Aristote a cherché tout seul. Je ne crois pas du tout qu'Aristote considérait que c'était défini. Il a cherché toute sa vie et on voit bien que de fait, il considère qu'essentiellement, le problème philosophique consiste à découvrir les principes. La découverte d'un principe dans le sens d'Aristote est une découverte qui dépasse la définition. On ne peut pas définir un principe.
On peut dire que, de fait, l'intelligence humaine, quand elle découvre un principe, sait très bien qu'elle peut toujours le découvrir mieux. Oui, j'allais dire que vous possédez la connaissance d'un principe. Je prends principe au sens aristotélicien. Je prends cause au sens aristotélicien. Vous voyez, c'est la différence d'une philosophie qui parle d'une solution ou d'une philosophie qui s'oriente vers la chaîne des principes ou des causes. Le propre de la découverte d'un principe et d'une cause, c'est de quelque chose que nous pouvons toujours découvrir plus profondément. Parce que le principe et la cause, c'est quelque chose de premier. C'est quelque chose de premier du côté de l'être ou du côté de l'intelligibilité, c'est quelque chose qu'on peut découvrir toujours plus profondément. On peut toujours aller plus loin. Et si de fait la découverte des principes et des causes pour Aristote se fait par l'induction, la méthode inductive est une méthode tellement subtile, c'est vrai, très difficile, tellement qualitative, si vous voulez, que de fait, on voit très bien que nous pouvons toujours aller plus loin dans cette découverte. De sorte que je crois que quand on est un peu habitué à la pensée d'Aristote, on voit très bien que c'est la suite qui a comme solidifié, scléroser la pensée d'Aristote. La pensée d'Aristote est une pensée constante de recherche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la découverte des principes qui sont quand même certaines déterminations. Là, j'aimerais le dire qu'il y a comme des axes de pensée dans Aristote. C'est beaucoup plus des axes de pensée qu'un système. On a un système, c'est toujours pour nous, c'est pas la pensée que c'est quelque chose d'arrêté. Je ne crois pas du tout. Je crois que la pensée d'Aristote est une recherche constante. Il y a un souci chez lui de ne jamais rejeter une réalité, un fait. Il faut toujours aller plus, toujours l'intégrer d'une manière ou d'une autre et de pouvoir l'expliquer. Évidemment, il y a dans la pensée d'Aristote une pensée qui s'organise. Je crois qu'il y a une organisation, j'aimerais presque me dire une organisation, un organisme de pensée d'un système. Parce que c'est le nous, pour lui, c'est cette